Europe Soir, le 18-20, Julien Bucher.
Avec le débat des grandes voix à 18h32, débat des grandes voix du mardi, ce soir à mes côtés, Charles Villeneuve. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Guylaine Ottenheim, rédactrice en chef à Challenge. Bonsoir Guylaine.
Bonsoir Julien.
Et le politologue Pascal Perrineau. Bonsoir mon cher Pascal.
Bonsoir.
Alors ce soir, on évoque ensemble ce débat autour du passeport vaccinal. Le sujet était sur la table aujourd'hui du Conseil européen, avec l'idée donc d'instaurer, d'autoriser certains déplacements ou certaines pratiques sous condition d'être vacciné. Des pays comme la Grèce ou Israël, en dehors de l'Europe, y sont favorables. Mais en France, ça ne fait pas l'unanimité. C'est prématuré, a dit ce matin Olivier Véran.
La question se posera nécessairement à un moment donné. Si à un moment donné, on nous dit que le vaccin, non seulement il préserve des formes graves, mais qu'il protège de la contagiosité et de la contamination, et que si vous êtes vacciné, vous n'avez plus de risque d'attraper le virus ou de le passer à quelqu'un d'autre, ce débat, il deviendra nécessaire parce que il sera cohérent.
Alors, il faut être précis pour parler de cette histoire de passeport vaccinal. Parce qu'il y a des conditions. Ce pourrait être un passeport vaccinal pour prendre l'avion, pour prendre certains transports, ou tout simplement, 60% des Français y sont favorables, pour rendre visite à nos anciens dans les EHPAD. Voilà, donc c'est vrai que c'est rendre de fait la vaccination obligatoire pour certains actes du quotidien, mais pas pour tous les actes du quotidien. Bonne idée ou mauvaise idée, Guylaine Ottenheimer ?
D'abord, moi je trouve que le mot passeport n'est pas bon. Un passeport, c'est un État qui donne un document pour passer une frontière, pour aller dans un autre pays. Donc quand même, il ne faut pas exagérer, aller voir nos anciens dans les EHPAD, ce n'est pas un passeport. On peut exiger un certificat, comme on a un carnet vaccinal, pour certaines...
Mais sur le principe. Bon,
sur le principe, je suis très choquée par ce que dit M. Véran, en disant que la question se posera à un moment où on verra que le vaccin est efficace. Non, on posera la question le moment où le vaccin sera disponible pour tous.
Oui.
Comment voulez-vous imposer des conditions, des restrictions pour des citoyens qui se battent en essayant d'avoir un vaccin ? Enfin, c'est hallucinant. Il n'y a pas 1% de la population qui est aujourd'hui vaccinée et on parle de passeport vaccinal.
460 000 Français vaccinés à l'heure où l'on se parle. Charles Villeneuve, pour ou contre cette idée de vaccin, de passeport vaccinal ?
Moi, j'y suis favorable à partir du moment où toutes les conditions seront remplies. C'est-à-dire qu'on aura plus de 60% des Français auront reçu la deuxième dose.
Oui, donc ce n'est pas demain la veille, a priori.
Voilà.
Et pour les 40% qui n'ont pas pu l'avoir parce qu'elle n'était pas encore disponible ?
Non, parce qu'il paraît que l'immunité, de toute façon...
Alors, à ce moment-là, il n'y aura plus besoin d'un passeport.
Pascal Perrineau.
Oui, non, si, pour prendre le voyage, pour voyager.
Oui,
si.
Alors ça,
il y a
c'est
déjà
différent.
D'ailleurs des compagnies aériennes qui ont mis en place ou qui ont dit qu'elles allaient mettre en place
ce passeport. Il y a deux compagnies.
La compagnie australienne Qantas, notamment.
Et puis la compagnie israélienne, parce que les Israéliens sont allés un peu plus loin, justement.
Oui.
Parce qu'eux sont quasiment à la veille d'imposer le passeport vaccinal.
Oui, et eux ont déjà vacciné massivement. Je crois qu'ils sont à plus de 2 millions de personnes vaccinées. Pascal Perrineau.
Ce qui est intéressant, c'est de voir la position des Français. Les Français, quand on leur demande est-ce que vous êtes pour la vaccination obligatoire, une majorité dit non.
Oui.
Il n'en est pas question. En revanche, quand on leur dit est-ce que vous êtes pour le passeport vaccinal, ils disent oui. Hein, parce que le passeport vaccinal serait réservé simplement à certaines situations, quand on va à l'hôpital, quand on va voir des vieux parents dans les EHPAD et quand on va à l'étranger. On comprend d'ailleurs pourquoi la Grèce est favorable à cette idée. Parce que la Grèce, c'est un pays extrêmement touristique dont l'économie dépend énormément, en effet, de l'arrivée d'étrangers sur son sol et d'étrangers, si possible, non porteurs du coronavirus. Donc, en effet, quand on aura atteint un score un peu plus, j'allais dire, un peu plus significatif que celui qu'on atteint aujourd'hui, on pourra envisager, pourquoi pas, un passeport vaccinal.
Mais un passeport vaccinal, ça serait plutôt pour voyager. En tout cas, c'est comme ça que l'imaginent les Européens. Oui. Hein. C'était en discussion aujourd'hui au Conseil européen. Alors, on est vraiment au tout début des négociations. Parce que, par exemple, les Pays-Bas, ils sont opposés de leur côté.
Alors, ça pose un problème au sein de l'espace de Schengen. Mais bon, ça existe déjà pour des tas de maladies. Par exemple, la fièvre jaune, il y a des tas de pays d'Afrique où vous ne pouvez pas y aller sans avoir le vaccin.
Et pas seulement pour la fièvre jaune.
Pas seulement
la fièvre jaune. Pour la rougeole aussi.
Et puis, il y a des choses qui sont recommandées.
Je rappelle qu'en France, il y a 11 vaccins obligatoires pour les enfants.
Exactement. Oui. Voilà.
Le fameux BCG, d'ailleurs.
Après, évidemment, si les gens refusent de se faire vacciner, ben, ils ne pourront pas aller au théâtre. Mettons, je dis une situation extrême. Mais il faut qu'ils aient le choix. Moi, ce que je comprends pas, cette histoire de passeport vaccinal, elle a débuté quand, à l'époque, les Français étaient très anti-vaccins. Donc, on s'est dit, pour les encourager, on va leur dire, s'ils se font vacciner, ils pourront retourner au théâtre, au cinéma, etc. Maintenant, on a complètement changé de problématique. La problématique, c'est pas que les Français veulent pas se faire vacciner, c'est que les vaccins arrivent au compte-gouttes et que c'est la guerre.
Et qu'il y a pas suffisamment de doses.
Et que c'est la guerre pour se faire vacciner. Et que si vous, en plus, vous dites qu'il va y avoir un passeport vaccinal et que vous pourrez aller au restaurant, au cinéma ou au théâtre, si vous avez votre vaccin, mais que si vous ne l'avez pas, vous ne pourrez pas y aller, là, ça va quand même exploser, parce qu'on est très, très loin de pouvoir offrir les deux doses à tous les Français.
On marque une première pause et on se retrouve dans quelques instants, on continuera d'en parler, et puis on évoquera aussi le procès en cours contre Édouard Balladur. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite à 18h39 du débat des grandes voix du mardi, à mes côtés ce soir, Charles Villeneuve, Guylaine Ottenheimer, rédactrice en chef à Challenge, et le politologue Pascal Perrineau. Et on parle de cette polémique autour du passeport vaccinal. Faut-il, d'une certaine manière, rendre le vaccin obligatoire? Ça revient à ça, finalement, ce passeport vaccinal, que ce soit pour voyager, pour aller voir nos anciens dans les EHPAD, ou encore pour aller dans certaines entreprises. Parce que c'est ce que il commence à se passer, par exemple, du côté des sociétés informatiques. J'ai lu ce matin que Microsoft réfléchissait à la mise au point d'un passeport de vaccination, notamment pour un certain nombre de ses salariés. Est-ce que ça n'est pas quand même une manière de se protéger et de faire redémarrer l'économie plus rapidement? Charles Villeneuve, Pascal Perrineau.
Oui, moi je pense qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quatre pays européens qui y sont favorables. La Belgique, la Hongrie, qu'est-ce qu'il y a encore? L'Espagne, important quand même. Et puis le quatrième,
et puis la Grèce, bien sûr, voilà, pour le tourisme.
Et qui sont nettement favorables. Oui. Pas favorables à demi-mot, mais nettement favorables. Évidemment, l'économie rentre dans ce paramètre-là. Et moi, j'y suis favorable aussi. J'ai dit mes conditions, enfin, ce ne sont pas les miennes, mais pour la majorité des Français. Et n'oublions pas, d'ailleurs, tout à l'heure, Guylaine a fait allusion au carnet jaune, ce qu'on appelle le carnet jaune, c'est-à-dire la fièvre jaune, quand on va dans certains pays d'Afrique, qu'il y a aussi l'obligation de se faire vacciner pour trois autres maladies, qui est la rougeole, le tétanos et la rage.
Oui.
Bon, et puis le choléra, tu évoquais tout à l'heure, Guylaine, le choléra, c'est ponctuel.
Oui.
C'est dans les pays qui sont atteints ou qui où il y a une...
À terme, ça peut fonctionner tout cela, mais évidemment, on en revient à la question essentielle. Tant qu'il n'y a pas de vaccin pour tout le monde et tant qu'il n'y a pas de dose pour tout le monde, ça ne peut pas marcher. Parce que le passeport sanitaire, ça crée aussi une forme d'inégalité des citoyens face à l'accès au vaccin. Si dans la région Île-de-France, il y a beaucoup de gens vaccinés, mais que dans l'Ain, il n'y a pas de dose pour se faire vacciner, ce passeport vaccinal, il crée des inégalités de citoyens.
On est très, très loin. Mais vous avez... Tout le monde n'est pas complètement égal devant le Covid, parce qu'il y a des gens qui sont plus exposés que d'autres. Et vous avez vu que des syndicats, par exemple comme un syndicat infirmier, vient de proposer une vaccination quasi obligatoire pour les infirmiers en milieu hospitalier, en disant d'abord ça vous protégera et vous protégerez les autres. Hein. Donc cette idée d'une vaccination obligatoire sur des populations particulièrement exposées ou particulièrement à risque pourrait avoir du sens.
Oui, et ça fait son chemin.
Et ça fait son chemin.
Non, ce qui est intéressant de noter, c'est que le gouvernement avait d'ailleurs présenté fin décembre un projet de loi sur les urgences sanitaires qui a été perçu d'ailleurs comme une volonté, souvenez-vous, on en avait parlé ici même, d'instaurer un vaccin, un passeport vaccinal au moment où débutait la campagne de vaccination contre le Covid-19. Et sous le feu des critiques, l'exécutif avait finalement fait marche arrière et remballé son texte. Donc c'est un faux débat qui est agité par l'opposition, si je vous suis bien, Guylaine Ottenheimer, mais qui n'a que peu de chances d'entrer en vigueur dans un délai relativement court.
Si on pouvait tous demain aller à la pharmacie se faire une injection, etc., moi je dirais bravo au passeport vaccinal. Et les 30% de Français qui ne veulent pas se faire vacciner, bon ben voilà, si vous ne voulez pas vous faire vacciner de la fièvre jaune, vous n'allez pas dans certains pays d'Afrique. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner d'un certain nombre de choses, vous ne voyagez pas.
Oui.
Bon, alors il se posera toujours la question des personnes pour lesquelles il y a une contre-indication. Donc ça, il faudrait prévoir des clauses pour les personnes qui ne peuvent pas se faire vacciner pour X raisons. Mais tant qu'on n'a pas ce vaccin, je veux dire, c'est très prématuré. C'est pour ça que je suis choquée par ce que dit M. Véran. On dit, quand on saura que le vaccin marche, on pourra en parler. Non, on pourra en parler quand vous serez capable d'administrer une dose à tous ceux qui veulent l'avoir.
Non, mais on ne l'est pas de toute façon. On ne l'est pas de toute façon.
Bah alors donc, remettons le débat au moment où on pourra en discuter.
Le seul pays des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est la France, et c'est le seul qui n'a pas son vaccin, puisque tous les autres l'ont.
C'est vrai, mais que de ce point de vue-là, c'est un échec français industriel, hein, Sanofi qui n'a pas réussi à produire son vaccin.
On ne peut pas appuyer sur l'accélérateur pour en avoir plus.
Julien, moi je trouve qu'il y a quand même, ça fait son chemin, il y a une forme de passeport qui est en train de s'imposer, notamment à l'embarquement des avions. C'est la généralisation des tests. Et donc de plus en plus, on réclame des tests, et donc c'est une forme de passeport, justement, avant d'embarquer.
Oui, c'est vrai. Un test PCR négatif de moins de 72 heures. Et puis maintenant que vous avez vu que la France demande, alors c'est sur l'honneur, il n'y a pas de contrainte, demande aux citoyens qui arrivent de l'étranger de s'isoler pendant 7 jours. Je ne sais pas bien d'ailleurs comment tout ça est contrôlé et si ça fonctionne, mais bon, ça existe. Pascal Perrineau.
Et puis je crois que derrière tout cela, même si ce n'est pas au premier plan, mais il y a une question politique. C'est vrai que ce pouvoir a fonctionné depuis 11 mois, beaucoup de manière très administrative, avec toute une série de formulaires à remplir, d'interdictions qui se cumulaient pour se déplacer, et que on sait très bien que la France est un pays qui est assez rétive vis-à-vis, la France est rétive vis-à-vis de tout ce qui s'apparente à l'obligation. Regardez le débat par exemple sur le vote obligatoire. Voilà. Donc je crois qu'il y a aussi la volonté du pouvoir de ne pas en rajouter sur sa dimension de pouvoir qui empêche.
Mais on sent que la colère quand même s'installe sur la lenteur de cette mise en place de la vaccination.
Mais les gens ont envie d'en sortir, et on a tous compris que la seule façon de s'en sortir, c'est de revoir l'économie fonctionner, de repouvoir aller boire un verre ou un petit café au bistrot du coin, c'est le vaccin. C'est la seule solution. Bon, on a beau mettre des masques et se laver les mains, il y a des fuites, il y a des trucs, ça ne marche pas à 100%, il y a des gens qui font des conneries. La seule issue, c'est le vaccin. Et on a une chance extraordinaire que ce vaccin soit arrivé si vite. Bon, maintenant, il faut saisir notre chance. Et malheureusement, comme vous le disiez, la France ne fabrique pas de vaccin, donc on ne peut pas appuyer sur l'accélérateur. On attend les doses que voudra mieux nous fournir l'Europe. Souvenez-vous, quand l'Europe a commencé à acheter les vaccins.
300 millions de doses qui ont été recommandées.
Oui, mais quand elle les a achetées, à l'époque, tout le monde doutait du vaccin. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, etc. Donc déjà, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit si jamais le vaccin n'avait pas marché? Quel argent a été dilapidé?
En tout cas, je ne sais pas si vous regardez régulièrement les chiffres sur ce site qui est formidable, qui s'appelle Vaccin Tracker, qui rassemble chaque jour le nombre de personnes vaccinées. Et puis le nombre de vaccins aujourd'hui disponibles, il y en a très peu. On en a eu 1,6 million depuis le 24 décembre. Il y en a déjà 450 000 qui ont été administrés. Ça veut dire qu'il reste simplement dans nos frigos français un peu plus d'un million de vaccins. C'est pas beaucoup quand même.
Non, mais vous avez des villes de toute façon. Là, tout à l'heure, le préfet des Alpes-Maritimes, puisque vous le savez, c'est l'un des départements que je connais le mieux avec le Var. Eh bien, les préfets ont annoncé à la plupart des villes de 20-30 000 habitants qu'ils auraient chacun, dans les 48 heures qui viennent, 50 vaccins par jour.
Bon. Voilà, tout est
dit. Mais si vous voulez, en même temps, ça marche pas mal, et c'est bien d'avoir décentralisé, d'avoir accordé aux préfets ce qu'ils savent très bien faire, il ne faut pas l'oublier, parce que ce sont en quelque sorte des logisticiens. C'est dommage qu'on ait accordé ça aux agences régionales de santé, on a vu le four que c'est. Et il n'empêche qu'ils n'ont pas le choix. Ouais. On le sait de toute façon qu'on va mendier finalement l'achat des vaccins, puisqu'on n'est pas indépendant là-dessus.
On va laisser le Covid quelques minutes derrière nous et on va parler dans quelques secondes de cette affaire dite Karachi avec la justice qui entend depuis ce matin le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Édouard Balladur et son ancien ministre de la Défense. À tout de suite.